18h au studio Kalangou, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition du 11 juillet 2019 à Nefis Adam Sirfou à la présentation. Au sommaire de cette édition, une pirogue transportant une cinquantaine de passagers a chaviré ce matin sur le Goulbi de la commune de Tchibiri, région de Maradi. La surcharge serait la cause de l'accident qui a occasionné la mort de 11 personnes. 50% de la population du Niger a moins de 15 ans à l'occasion de la Journée mondiale de la population célébrée ce 11 juillet. Il est nécessaire d'investir davantage dans les domaines sociaux de base selon un spécialiste des questions démographiques. Zoom de la partie magazine de ce soir sur le mécanisme du village intelligent mis en œuvre par l'Agence nationale de la société d'information ANSI qui permettra le désenclavement numérique des villages du Niger. 11 morts, plusieurs rescapés, c'est le bilan d'un accident de pirogue survenu sur le Goulbi de la commune de Tchibiri, région de Maradi, tôt ce matin. La pirogue transportant une cinquantaine de passagers qui se rendaient pour les travaux champêtres à Chaviré. Pour l'heure, la surcharge assurait la cause de l'accident. Le gouverneur de Maradi, accompagné du préfet de Guido Rumji, était à la morgue de Tchibiri. Zakari Oumourou au micro de Mohamed Maman.
Le Goulbi de Maradi est arrivé il y a moins de 24 heures. Mais malheureusement, juste à son arrivée au niveau de Tchibiri, une pirogue qui voulait le traverser a chaviré. Et il y avait une cinquantaine de personnes d'après le piroguier à bord. Et nous venons de dénombrer 11 morts. Il y a eu plusieurs rescapés. Il y a deux ou trois qui sont en train de suivre des soins. Nous lançons aussi un appel à la population. Ce Goulbi-là, ce n'est pas un nouveau cours d'eau. Il est connu de tout le monde. Il faut que les piroguiers respectent la charge normale de leur pirogue. Il faut que les passagers qui empruntent les pirogues observent les consignes des piroguiers. Le président de la République a me chargé il y a juste 2 semaines d'informer le sultan du Gobir que les fonds nécessaires pour la construction d'un pont sur le Goulbi au niveau de Tchibiri sont acquis et que le pont sera fait incessamment.
4 blessés, dont un gendarme à 2 évacués au centre hospitalier de Gaya. C'est le bilan d'une attaque perpétrée hier par des hommes armés non identifiés arrivés sur 3 motos. Ils ont pris pour cible un poste de la gendarmerie qui surveille le marché hebdomadaire du village de Kurukeina, situé à 45 km au nord-est de Louga, région de Dosso, selon une source locale contactée ce matin par le studio Kalangou. Toujours en bref, le général de brigade nigérien Oumaru Namata Gazama est le nouveau chef de la force conjointe du G5 Sahel qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Selon le journal en ligne La Lettre du Continent, cet ancien chef d'état-major adjoint de l'armée de terre du Niger succède au général mauritanien Hanena Ould Sidi. Le G5 Sahel peine toujours à s'opérationnaliser et son poste de commandement à Bamako est l'objet de vives manifestations de la population civile depuis plusieurs jours, note le journal. Avec une population de plus de 22 millions d'habitants, dont 50% de celles-ci âgées de moins de 15 ans, la population nigérienne est jeune. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la population célébrée ce 11 juillet, le démographe Nuhu Abdulmoumouni estime que malgré les efforts de planification, la population du Niger doublera dans les années à venir. On l'écoute.
Dans les années 60, 70, 80, la population du Niger croît à un rythme de 3,1%. Le recensement général de la population de 1988 a montré une progression de ce taux de croissance qui était à environ 2,9%, il passe à 3,1%. Entre 2001 et 2012, on montre que le taux de croissance est passé à 3,9%. Alors que quand vous prenez ces intervalles de temps, il y a eu beaucoup d'investissements en termes de politique de planification familiale. Malgré ces efforts, on voit que le rythme de la croissance démographique ne fait que progresser. Aujourd'hui, la population, elle tourne autour de 22 millions d'habitants. Et au rythme actuel, on va assister à un dédoublement de ces chiffres. Naturellement, cette augmentation fulgurante de la population vient avec de nombreux défis. C'est la question de l'éducation, la question de la santé, de l'alimentation, de l'assainissement urbain d'une manière générale.
L'accès aux moyens contraceptifs dans les régions du Niger pose problème, surtout pour les jeunes filles. Pour Valentin Lubunga de l'ONG Maristops, les raisons sont culturelles et il y a aussi la méconnaissance de la loi sur la santé de la reproduction et son décret d'application. Valentin Lubunga, directeur pays de Maristops International, au micro de Diallo Maria Makenda.
La première question qu'une jeune personne qui se présente dans un centre de santé qui demande une méthode contraceptive, c'est « Est-ce que vous êtes marié ?» Et nous travaillons de près avec les personnes qui sont les partenaires d'autres ONG pour pouvoir combattre ce défi. Il est culturel, mais aussi parfois une question de ne pas savoir que bon, la loi sur la santé reproductive et sexuelle, elle permet à tout le monde de pouvoir avoir accès à la contraception sans distinction d'âge ni de statut marital ou statut économique.
Nous avons aussi appris que parfois, l'accord des époux comptait beaucoup dans la prise de ces méthodes contraceptives.
C'est une question qui est là, mais selon la loi, c'est beaucoup plus le choix de la femme. Je sais que c'est encore un peu délicat. C'est ce que dit la loi au Niger. Pour donner une méthode contraceptive, il n'est pas obligatoire d'avoir l'accord du mari. Ce n'est pas une question de mettre le mari à côté de cette décision, mais c'est beaucoup plus regarder le côté de la santé de la femme.
Les sages-femmes du Niger, à travers leur association, ont entrepris la semaine dernière une caravane à Agadez dans les centres de santé. L'objectif est d'améliorer les relations entre personnel de santé et usagers des services. Sido Fati de la division santé de la mère et de l'enfant au ministère de la Santé publique explique au micro de Anissé Karim.
Cette caravane elle a pour objectif général de vulgariser d'abord la loi SR. Il faut que les agents de santé sachent qu'il y a une loi SR qui est là et qui va taper fort si la personne déraille par rapport aux objectifs de la santé de la reproduction. Maintenant, c'est de sensibiliser aussi les prestataires sur l'éthique et la déontologie. Et parce que nous avons vu que vraiment la déontologie n'est pas respectée sur le terrain par nos agents de santé. Et il y a la sensibilisation des prestataires sur l'accueil en milieu de soins. Beaucoup de gens se plaignent par rapport à notre accueil dans les formations sanitaires. Il y a aussi comme objectif sensibiliser les prestataires sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents en vue d'amener ce groupe à fréquenter les services de santé. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sans savoir que nos jeunes, ils ont des difficultés pour accéder à nos services de santé. Là aussi, on va attirer leur attention pour qu'ils puissent accéder s'ils ont des problèmes de santé, de savoir là où ils doivent s'orienter pour demander des informations par rapport à leur santé.
Autre aspect de cette édition, le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale ZLECAF s'est tenu dimanche à Niamey. Le ministre délégué au budget du Niger estime que l'agriculture et l'élevage du Niger tireront un grand avantage de l'opérationnalisation de cette zone. Ahmed Jidoud au micro de Habibou Garba.
Le Niger dispose d'un potentiel énorme en matière agricole, en matière de l'élevage. Ces produits feront naturellement objet de transformation et pouvoir être exporté à l'extérieur, ce qui constitue des ressources et des revenus considérables pour nos citoyens qui sont dans le monde rural, qui en sont les producteurs. Et je pense que c'est ça l'intérêt en fait, de la zone de libre-échange continentale aujourd'hui, c'est qu'elle nous offre la possibilité de faire exporter des produits sur lesquels nous avons un avantage comparatif remarqué et ça contribuera à l'amélioration des conditions de vie de nos populations rurales et par conséquent à la réduction de la pauvreté.
D'aucuns disent que c'est seulement l'apanage des gens aisés qui ont l'opportunité de voyager d'un pays à un autre, est-ce vrai?
Non, mais la ZLECAF ne concerne pas seulement la libre circulation des personnes. Elle concerne la libre circulation des biens. Et les biens, ils ne sont pas produits par les aisés. Je vous parle de l'agriculture. Aujourd'hui, nous produisons de la tomate, nous produisons des oignons. Mais ils sont produits par qui? Ils sont produits par nos citoyens qui sont dans le monde rural. Et par conséquent, les plus grands bénéficiaires, moi, je pense, c'est le monde rural aujourd'hui.
La campagne pour les élections professionnelles du 31 juillet au Niger a débuté aujourd'hui. Pendant 3 semaines, les 12 centrales syndicales du pays tenteront de convaincre leurs militants de l'importance de cette élection à travers tout le territoire. La Confédération générale des syndicats libres du Niger a pris des dispositions selon Soumel Banya, son secrétaire général. Il est au micro de Asmana China.
Nous avons mis en place un dispositif bien avant le lancement de la campagne qui a mis en place un programme assez pertinent qui va consister à mener des actions de plusieurs ordres. Nous allons organiser des assemblées générales, nous allons organiser des caravanes, nous allons organiser des missions de sensibilisation sur tout le territoire national et nous allons organiser des soirées électorales, le tout pour faire passer le message de la CGSL et faire en sorte que nos militants soient suffisamment galvanisés, qu'ils soient mobilisés pour se rendre au niveau des bureaux de vote et procéder vraiment à leur devoir le 31 juillet.
Pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, Balkissa Balarabé, une jeune femme de 33 ans, s'est lancée dans le commerce des chèvres rousses qu'elle achète à Maradi pour les revendre à Agaya, suivant le reportage de notre correspondante Ramatou Issawenki.
Selon Balkissa, le commerce est une façon d'inciter les jeunes, surtout les femmes, à faire du petit commerce qui leur permettra de gagner leur vie.
J'ai fini mes études en élevage, mais l'État ne peut pas nous prendre tous en charge. Et je me suis engagée de créer mon propre compte pour vraiment montrer aux autres jeunes que vraiment c'est pas uniquement État qu'on peut attendre. Il faut aussi se débrouiller, aussi vraiment montrer qu'on est capable de créer son propre entreprise, d'évoluer dans le secteur privé aussi.
En dehors du commerce des chèvres rousses, Balkissa fait aussi de la commercialisation des peaux de vaches et de moutons qu'elle vend au Nigeria et au Bénin.
Je fais la commercialisation de la peau aussi et aussi du fumier organique que je vends au niveau des jardiniers et des cultivateurs aussi.
Balkissa veut agrandir son commerce en créant une petite entreprise d'élevage. Seulement le manque d'appui des autorités locales ou des bonnes volontés lui ont fait changer d'avis. Ramti Sawenke, Studio Kalangou, Gaya.
Place à présent à la partie magazine de ce soir, le mécanisme de village intelligent mis en œuvre par l'Agence nationale de la société d'information ANSI permettra le désenclavement numérique des villages du Niger. Cette initiative a révolutionné le secteur éducatif et sanitaire de la commune rurale de Fachi où il est expérimenté depuis le 29 juin 2018. Selon le directeur général de l'ANSI, plusieurs villages seront équipés dans les autres régions du pays. Ibrahim Gimba au micro de Habibou Garba.
Développer les secteurs sociaux de base à travers le numérique, c'est l'objectif de l'Agence nationale de la société de l'information ANSI avec la création des villages intelligents. Gimba Seydou, directeur général, explique.
L'essentiel de notre population vit dans les villages. Et l'essentiel de notre population n'a pas accès, en tout cas de façon soutenue, à certains types de services, surtout les services sociaux. Donc à travers les villages intelligents, que nous appelons entre autres porte d'entrée du développement rural, c'est de désenclaver dans un premier temps numériquement les villages, en amenant la connexion dans ces villages-là, parce qu'aujourd'hui ils l'ont pas pour la plupart, et en accompagnant cette connexion de services. Je m'explique, par exemple, dans le domaine de la santé, nous n'avons pas de médecins dans les villages. Dans le meilleur des cas, nous avons des techniciens ou bien des infirmiers. Et là, à travers le programme des villages intelligents, par exemple, on peut introduire la télémédecine pour permettre à des médecins de consulter à distance, pour permettre à des médecins d'échanger entre eux sur des cas pratiques pour faire des recommandations. Donc ça permettra une prise en charge plus rapide et meilleure des patients directement dans les villages. La même chose se fera pour l'éducation, puisqu'on n'a pas suffisamment d'enseignants dans les villages. Comment les appuyer déjà pour le renforcement de leurs capacités, mais aussi comment les appuyer pour l'enseignement à distance pour que les élèves aient une panoplie de cours à leur disposition.
Pour avoir de la technologie à l'intérieur du pays, il faut également de l'énergie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce sens, dans ces villages-là?
Absolument. Et les équipements donc, que nous déployons, qui sont des équipements électroniques, sont alimentés par de l'énergie solaire. Donc, ce que nous faisons dans un premier temps pour aller vite, nous amenons nos équipements donc, avec de l'énergie solaire pour pouvoir les faire fonctionner et puis avoir au moins un début, j'allais dire, d'électrification publique. Donc au moins, les endroits où nos équipements sont ou seront auront de l'électricité. Mais la deuxième chose que nous faisons, c'est que nous sommes en train de coordonner avec l'AMPER, que vous connaissez, qui est l'agence en charge de l'électrification rurale, pour accompagner le déploiement donc, de l'électrification rurale avec les services des villages intelligents.
Vous avez déjà commencé à expérimenter ces villages ou bien tout est encore en voie?
Non, il y a déjà un village qui est déployé. Peut-être que vous avez entendu parler de ça à Fachi. Fachi qui est en plein milieu du Ténéré, donc que nous avons connecté il y a presque une année, il y a même une année en fait, qui nous sert de pilote. Là, au cours des prochains mois, probablement dès le mois de septembre, octobre plus tard, nous allons déployer une autre dizaine de villages. On aura au moins un village dans chacune des régions du Niger pour continuer cette phase d'expérimentation.
Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, à une rediffusion du forum sur la valorisation et la consommation des produits locaux, défis et opportunités du secteur. C'est avec Mokhtar Hamadou.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.